des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Point Radio. Vous écoutez
Geneviève Peterson.
Cube Radio.
Le 17 mai, c'est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Et vraiment, il faut se rappeler parce que, bon, ça frappe à chaque fois. L'homosexualité a été retirée de la liste des maladies mentales de l'Organisation mondiale de la santé seulement en 90. Le 17 mai 90. Donc, c'est hier. Tu sais, ça fait pas si longtemps que ça. C'est encore, malheureusement, bon, un sujet dont on parle parfois négativement. On est avec Laurent Brault, qui est directeur général de la Fondation Émergence. Monsieur Brault, bonjour.
Bonjour.
Bon, juste nous préciser un peu qu'est-ce que vous faites chez Émergence.
Oui, c'est un organisme qui lutte contre l'homophobie et la transphobie. Mm-hmm. On met sur pied des programmes de sensibilisation, d'éducation, d'information, que ce soit le programme Pour que vieillir soit gay pour les milieux aînés, mm-hmm. que ce soit pro-allié pour le milieu de travail.
Ouais.
Mais notre programme central, c'est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. C'est mm-hmm. la fondation qui a créé cette journée-là pour la première fois au monde mm-hmm. en 2003 et qui est maintenant soulignée dans plus de 130 pays.
Oui, puis absolument, il y a comme une espèce de thématique à cette journée-là. Cette année, vous mettez de l'avant, malheureusement, la recrudescence des violences envers les communautés LGBTQ+. Puis, tu sais, il y a eu quand même 86%, une augmentation de 86% des crimes haineux envers les membres de ces communautés-là en 5 ans au pays. C'est énorme. Puis, je pouvais pas m'empêcher, M. Brault, de me faire la réflexion suivante. Puis, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Je me disais, on n'a jamais autant parlé d'enjeux trans dans l'espace médiatique, là. Puis bon, c'est assez ironique que les cas de violence et d'intimidation augmentent. Est-ce que c'est parce qu'on fait connaître le sujet à des intolérants? Comment on en parle de plus en plus puis qu'on a une recrudescence de haine puis de violence envers ces communautés-là?
Mais c'est une excellente question là. Dans le fond, c'est ce que ILGA, qui est l'international pour les gays et lesbiennes, explique dans leur rapport, c'est qu'en fait c'est l'effet de ressac ou backlash en anglais.
Mm-hmm.
Dans le fond, c'est ce qu'on constate, c'est que sur la planète entière, les droits pour les communautés LGBT avancent. Ça, c'est une bonne chose. Ça avance lentement. On aimerait pas que ça avance plus vite, évidemment. Par contre, ces avancées-là suscitent des réactions négatives. C'est un petit peu comme quand on est dans le placard. Quand on est dans le placard, c'est un mécanisme de protection, de défense.
Ouais.
On veut pas subir de l'homophobie ou de la transphobie manifeste. Mais quand on sort du placard puis qu'on s'affirme, c'est là que les personnes qui sont plus intolérantes réagissent de manière homophobe et transphobe.
Ouais.
Donc, transposer ça au niveau plus collectif, plus sociétal, c'est la même chose. Les droits avancent, on s'affirme plus, ben malheureusement, ça crée des réactions négatives plus vives qui se traduisent en de la violence physique et parfois même des décès, là.
Ouais, puis je pense aussi que bon, il y a certaines formes de violence et tout ça qui sont plus socialement acceptables. Il y a des formes pernicieuses de discrimination qui sont encore bien présentes. Maintenant tu peux plus créer des insultes homophobes à quelqu'un en pleine rue. C'est sûr que ça passera pas là, mais il y a toutes sortes de façons d'être transphobe, d'être homophobe qui sont larvées là dans nos comportements au quotidien, parfois même sans qu'on s'en rende compte.
Ouais, ben c'est ça. Au niveau des droits, évidemment, ça a beaucoup avancé. Il y a plus de protection au Québec, au Canada. Tout ça, on peut en être fiers, là, collectivement. C'est vraiment une belle victoire, c'est une belle avancée. Le problème, ben c'est sûr qu'il reste des droits encore à aller chercher, notamment pour les personnes trans et non binaires.
Oui.
Mais ce qui est à changer ici, c'est surtout l'image, les perceptions, les préjugés. Comme vous disiez au début de l'entrevue, là, ce n'est qu'en 90 que les homosexuels sont plus considérés comme des malades mentaux.
Donc, ça fait pas longtemps.
Fait pas longtemps. Donc, pendant des siècles, en fait, on voyait l'homosexualité comme quelque chose de négatif. Donc, c'est sûr que c'est ancré dans la culture, dans les mœurs. Ça se change. On peut démystifier, on peut faire de la sensibilisation. Puis, tranquillement, en changeant les mentalités, on aura plus d'inclusion.
Oui. Mais je vais être super... si je dis quelque chose de maladroit, vous me le dites, OK? Pour vrai, là... non, mais parce que je suis pas parfaite, puis je trouve que c'est tellement des enjeux qui sont complexes, puis, tu sais, j'ai pas 4 doctorats là, sur ces questions-là. Donc, tu sais, je suis vraiment...
Je suis toujours à rabrouiller les gens.
Non, mais dites-moi là, parce que j'avais l'impression... Je me disais qu'il y avait certains préjugés qui s'étaient déplacés d'une communauté à l'autre. Tu sais, dans le temps, là, on disait il y avait les thérapies de conversion, puis on disait que c'était un choix, puis tout ça. J'entends beaucoup ça par rapport à la transsexualité, notamment ce qui touche les enfants, là, qu'à force d'en parler, on fait des enfants trans, puis on parle de ça comme si finalement c'était une mode chez les ados, puis que c'était pour se rendre intéressant. À chaque fois que j'entends des choses comme ça, ça me fait mal, parce que on le sait que c'est pas ça, tu sais, mais ça semble être une conception qu'on associe à l'homosexuel qui s'est déplacée dans ces sphères-là.
Ben, c'est-à-dire que on a parlé pendant très longtemps de l'orientation sexuelle.
Ouais.
La décriminalisation de l'homosexualité en 69, là, avec la fameuse phrase de Pierre Elliott Trudeau, là, que l'État n'ira pas dans les chambres à coucher.
Ouais.
Puis tranquillement, en fait, c'est les enjeux sur l'identité, l'expression de genre qui se sont de plus en plus présentés.
Ouais.
Et tout ça, c'est plus nouveau pour les gens de parler de transidentité et tout ça. Donc c'est sûr que là, il y a plus c'est un sujet plus d'actualité. Ceci dit, moi, parce qu'on fait de la formation en entreprise, puis souvent les entreprises, ils nous disent, parlez-nous des réalités trans. On dit oui, mais faut pas non plus oublier que il y a les LGBTQ+, là. Donc c'est tout un spectre, puis toutes les communautés vivent des discriminations qui sont différentes, mais aussi intersectionnelles, qui se rejoignent, puis dans le fond, il faut vraiment continuer la sensibilisation pour l'ensemble des communautés.
C'est vrai.
Donc ça, c'est très important. Mais effectivement, je comprends ce que vous voulez dire, là, il y a un effet un peu de nouveauté pour le grand public, mais pourtant, les personnes trans et non-binaires ont toujours existé dans l'histoire de l'humanité, c'est juste que là, on en parle plus, là.
Ben oui, puis on en voit aussi à la télé et au cinéma. Bon, parfois c'est pas très bien réussi, d'autres fois c'est mieux, mais si on revient au sujet de la violence, là, on a beaucoup parlé d'haine en ligne depuis le début de la pandémie. Ça, est-ce que ça a été un gros problème pour vos communautés?
Ouais, la pandémie, ben en fait, comme pour n'importe quelle communauté marginalisée, la pandémie a frappé plus durement. Il y a certaines études qui sont sorties. C'est sûr que depuis un an, là, c'est difficile de mener des études, mais il y a quelques données quand même qui sortent, qui démontrent que les ménages homosexuels ont en général perdu plus souvent leur emploi, les personnes de ce ménage-là, que la majorité de la population, parce que les LGBT sont souvent dans des domaines plus précaires. Au niveau de la détresse, effectivement, là, détresse psychologique, là, il y a des organismes comme notre partenaire Interlink qui offre une ligne d'écoute pour les personnes, puis il y a eu une augmentation évidemment de l'aide due à l'isolement. Nous, on travaille beaucoup dans les milieux aînés. Et les personnes aînées LGBT, comme toutes les aînées, en fait, qui ont vécu beaucoup d'isolement, les personnes aînées LGBT sont encore, ils étaient déjà ultra isolé avant. Avec la pandémie, ça s'est comme vraiment amplifié. Mais c'est ça. Dans le niveau communautaire, on essaie le plus possible de s'organiser pour les aider, mais on a toujours besoin de financement, de sources de soutien, de ressources humaines, etc.
Mais je suis curieuse, M. Brault, vous me parliez tantôt des milieux de travail, là. Vous me disiez, on fait des formations. Y a-t-il une vraie volonté? Parce que j'ai l'impression souvent là, que c'est un peu... Puis encore une fois, je mets mes gants, là. C'est un peu cosmétique. Tu sais, on se donne bonne conscience, là. On invite un organisme pour nous faire une petite présentation d'une heure sur la réalité LGBTQ+. Puis quand on repartit, on recommence à avoir des formulations plus ou moins heureuses en milieu de travail puis à intimider le monde de façon plus ou moins frontale.
Ouais, ben en fait, ce que vraiment changé la donne, c'est quand le gouvernement a ajouté l'identité, l'expression de genre dans la liste des motifs interdits de discrimination.
Okay.
C'est sûr que là, les employeurs ne l'ont peut-être pas perçu tout de suite, mais plus les années passent, plus ils se rendent compte que la discrimination lutter contre la discrimination, c'est sous de nouvelles formes. Par exemple, on pourrait pas mettre quelqu'un à la porte parce qu'il porte des vêtements plus féminins ou plus masculins, mm-hmm. si c'est une femme, etc. Donc là, les employeurs se rendent compte que, oh, OK, il faut vraiment adapter nos besoins. Je pense que, de façon générale, il y a une volonté réelle, mm-hmm. mais peut-être que les moyens sont pas toujours les bons parce que les entreprises, souvent, ils savent pas comment aborder le sujet ou par où commencer. Mais nous, on est là pour les guider, évidemment, puis on a de la formation, de l'accompagnement. Mais il y a des enjeux qui se présentent, qui ne s'attendaient pas. Par exemple, avec les assurances, une personne trans qui arrive, que ses noms, sa mention de genre n'est pas la même sur ses documents officiels que, mettons, sur son dossier scolaire, demande un prêt étudiant, l'institution financière ne sait pas trop comment réagir. Fait qu'ils sont des fois vraiment pris avec des systèmes qui permettent pas la diversité des identités.
Ouais, c'est ça.
Donc, ils sont un peu mal pris.
Ouais.
Ou ça peut être une transition en milieu de travail où là, l'entreprise ne sait pas comment bien encadrer pour accompagner la personne puis annoncer.
Ouais, c'est tellement délicat. Ben oui, tu sais, puis tout le monde, ouais. C'est ça, ça demeure des enjeux excessivement délicats. C'est pour ça qu'une journée comme le 17 mai existe. Ça nous permet d'en parler, de démystifier un peu tout ça. Puis de se regarder aussi, là, des fois, on a des formulations maladroites. Donc, peut-être essayer d'être délicat dans notre approche aux autres. Laurent Brault, merci, qui est directeur général de la Fondation Émergence. On se rappelle que le 17 mai, c'est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie.